When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
À la mort du père Jawan, il y a une de ses nièces qui a rédigé un livre. Le titre du livre, c'est une phrase qui disait beaucoup « Démerdez-vous pour être heureux parce que les autres ont besoin de votre bonheur ». Mais c'est vraiment ça, c'est « Démerde-toi ».
Carole Pierre, 29 ans, cuisinière embarquée sur le trois-mâts, le Rara Avis, de l'association AJD du père Jawan.
Ma mère a cuisiné beaucoup, mais justement, moi, ça m'écœurait. Je me disais, mais c'est pas possible de passer autant de temps dans la cuisine. Enfin, c'est du temps perdu, quoi. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais ouais, un jour, j'ai rencontré un gars qui était passionné de cuisine, en fait, de restauration. Voilà, il me parlait du travail d'équipe, de la créativité. Tu t'éclates complètement dans ce boulot. Tu es quand même assez libre de créer plein de choses, et puis tu fais plaisir aux gens, puis c'est du direct, c'est du concret, et surtout la possibilité de voyager extrêmement facilement avec ce métier. Et en plus, en tant que cuisinier français, partout où tu vas, tu trouves du travail immédiatement. À 15 ans, je suis allée en école hôtelière, et en école hôtelière, t'es formé pour dire oui chef, aller dans les brigades. C'est un milieu assez agressif quand même. Enfin moi, l'idée là, c'était d'aller dans les grands hôtels, les meilleures maisons. Voilà, je voulais l'excellence, la perfection de l'assiette. C'était tout ce qui m'importe. Et j'ai commencé à travailler donc d'abord en apprentissage et ensuite dans des restaurants. Tout de suite à l'étranger d'ailleurs. Je suis allée en Angleterre au bout de 3 semaines, j'ai trouvé un travail. Je suis allée au Québec. Au bout d'une semaine, j'ai trouvé un job dans un restaurant, pile poil ce que je voulais. Ouais, les métiers de la mer, à part l'armée et puis les pêcheurs, je pensais pas qu'il y avait autre chose. Et j'avais pas encore compris à ce moment qu'il y avait des cuisiniers sur les bateaux. Je voulais apprendre la cuisine japonaise, en fait. Je trouve que dans nos sociétés, plus on vieillit, plus on s'empâte, on grossit, on mange mal, on a plein de maladies, etc. Et je me suis intéressée au pays où les populations vivaient et vieillissaient le mieux. Cherchant, j'ai vu que c'était notamment le Japon, quoi, où les gens avaient une très longue espérance de vie et ils sont en forme jusqu'à leur vieux jour. Puis en plus, leur cuisine est très variée, très intéressante. Ils sont très rigoureux, très minutieux. Donc, ça me motivait. En plus des arts, des paysages, enfin, de plein de choses. Donc, je suis allée là-bas pendant un an. Je travaillais d'abord bénévolement dans des fermes auberges, des fermes restaurants. Je faisais entre 2 et 5 semaines de bénévolat par établissement. Ce qui m'a permis de bouger à travers tout le Japon, au nord, au sud, est, ouest. Et quand j'ai mieux compris la langue, les coutumes, parce que c'est un gros point. Les aliments aussi, parce que tout le frigo là-bas, tu sais pas trop ce que tu vas manger, quoi, au début. T'as la dalle, mais c'est tout. Et donc là, j'ai trouvé, par le bouche à oreille, une place salariée, cette fois-ci, dans un restaurant traditionnel haut de gamme à Kyoto. Où là, à Kyoto, c'est un peu le cœur de la cuisine japonaise. Et à la fin de mon visa, je me suis un peu intéressée à mes rêves, en fait. C'était quoi mes rêves avant? Parce que j'étais dans une période... j'étais un peu déprimée sur la fin, en fait. J'avais eu des soucis qu'on peut avoir quand on travaille dans une entreprise japonaise et qu'on est une femme là-bas. Je passais mon temps libre, le peu de temps libre que j'avais à regarder sur Internet des projets qui me faisaient rêver, tout ça. Et puis, je pensais au bateau, là, là, là. Et puis, en dérivant un peu sur le net, j'ai fini par tomber sur un bateau qui navigue à travers le monde. Je me suis dit, finalement, il y a peut-être une place pour une cuisinière. Et quand je suis allée sur Internet, j'ai vu que ce bateau arrivait 3 semaines plus tard au Japon, en fait. J'ai réussi à monter à bord, les voir. Et une fois à bord, j'ai appris qu'ils allaient à Taïwan. Et moi, j'allais aussi à Taïwan, en fait. Parce que les Japonais, qui sont quand même d'excellents cuisiniers et gourmands, ils adorent la cuisine taïwanaise. Donc, ça m'a intriguée. Comme si un Japonais dit que la cuisine à Taïwan est excellente, c'est que ça doit être sacrément bon. Comme c'est un pays qui est magnifique aussi, il y a énormément de montagnes, c'est une petite île, quoi. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas faire le tour de Taïwan à vélo et puis découvrir la cuisine comme ça, rencontrer les gens. Et donc, voilà, je suis arrivée à Taïwan. J'ai fait, pendant un mois, j'ai fait le tour à vélo. J'ai rencontré énormément de gens. Bah, j'ai fait la cuisine avec des mamies, avec des familles, avec plein de monde, en fait. Et à la fin, en finissant la boucle, je suis retournée voir ce bateau en question. J'avais pédalé comme une dingue pour être dans les temps à ce déjeuner. Et voilà, donc je suis montée à bord. Et en discutant avec le capitaine, et puis le capitaine que j'avais vu au Japon, c'était pas le même capitaine. Ils m'ont dit, voilà, il faut que tu passes ton brevet de matelot. Il faut que tu te fasses de l'expérience. Il faut que tu gardes contact, que tu donnes des nouvelles de temps en temps, régulièrement. Et puis voilà, quoi, peut-être... Enfin, on verra, quoi. Si t'es motivé ou pas, en fait, je pense. Et en fait, la cuisinière à ce poste, à ce moment-là, voilà, me dit, il faut que tu te fasses de l'expérience. Et moi, j'étais un peu, ouais, ok, mais genre, parce que c'est vrai que quand tu n'as pas d'expérience, c'est compliqué aussi. Tu vois, un bateau, il ne va pas forcément prendre quelqu'un qui ne sait pas du tout naviguer. Et elle m'a dit, elle m'a parlé de plusieurs projets, et puis sinon, plusieurs bateaux, et puis sinon, elle m'a dit, il y a aussi la JD. Donc, j'étais, ah ouais, c'est quoi la JD? Et donc, elle me dit, c'est l'association du Père Jaouen. C'est une super bonne expérience, bonne première expérience, en tout cas. Bref, donc, du coup, je les quitte là-dessus, et puis, moi, je fais mes petites recherches, je tombe sur un magnifique documentaire de Thalassa, qui présente l'association du Père Jaouen, qui l'accompagne dans une traversée de l'Atlantique, etc. Du coup, à Taïwan, hein, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé en France et j'ai demandé, si je veux aller chez vous, comment je fais, quoi.
Oh, le Père Jaouen, c'est quelque chose, quoi. Moi, je suis content de l'avoir connu. C'est...
Il a l'œil. Il voit tout, il entend tout.
Si les curés étaient comme lui, il y en aurait peut-être plus à croire en Dieu.
Mais il faut s'entendre, bien s'entendre sur le mot amour, à savoir qu'il ne s'agit pas de prendre, mais de donner.
Michel Jaouen, alors je dirais un curé, un pirate et un exemple.
Un Jaouen, c'est un monument de générosité, quelqu'un qui a toujours une façade inoxydable.
Avec ses bateaux, le Bel Espoir et le Raravis, c'est aussi un de mes amis marins qui navigue le plus dans l'année. Enfin, c'est celui, le seul, qui navigue autant dans l'année.
C'est sympa de naviguer avec lui. Hein. Il gueule des fois, et puis en même temps, d'autres fois, il est espiègle et tout, il t'envoie chier, il te pousse un peu. C'est bien.
La guise des merdes, oh !
Il a un charisme évident.
des idées originales, une agressivité très celtique, mais de bon aloi.
Laisse-moi gueuler un peu, c'est pour leur faire plaisir que je gueule un peu.
C'est un gars, je tire mon chapeau, 85 balais, tiens la marée, chapeau.
Je suis rentrée en France, j'avais plus de sous. Donc j'ai trouvé un boulot, j'ai fait une saison, j'ai gagné des sous. Puis là, comme j'avais pas d'aide pour ma formation, j'ai tout payé moi, quoi, cash. Et donc j'ai fait un brevet de matelot en deux, un CMP, un certificat de matelot en 2 mois. C'est le premier brevet de la marine marchande. Donc, on peut pas travailler sur un bateau de la marine marchande sans au minimum ce brevet-là. Dans la classe, il y avait des gens de 18 à 55 ans. On était 10, en général, c'est pas des grosses classes. Et là, on était exceptionnellement 4 femmes sur 10. C'était un truc jamais vu, en fait, quoi, apparemment. Et il y avait des gens, qui venaient ici pour ensuite travailler dans le yachting. Il y en a qui avaient un projet de faire du charter. Il y en a qui voulaient aller travailler sur les ferries. Il y en a qui avaient déjà de l'expérience. Moi, j'en avais pas du tout. Donc, j'étais vraiment paumée, quoi. C'était hyper théorique. J'avais un peu de mal. Alors qu'il y en a d'autres qui avaient déjà navigué pendant 2 ans. Donc, ils s'ennuyaient presque. Et donc il y a une partie navigation, apprendre à faire le point sur la carte, à utiliser les cartes de navigation, un peu de météo, toutes les règles de conduite, les feux, les phares, il y avait aussi tout ce qui était une formation à la sécurité, à la sûreté, à l'incendie, toutes les bases en fait quoi de pour pouvoir travailler sur un bateau de la marine marchande. Et puis après, si on le souhaite, on peut, au bout de, si on prouve après le CMP que l'on a fait au moins 6 mois de navigation, voilà, avec des certificats machin, on a le droit ensuite de continuer d'enchaîner sur une formation de capitaine de sang. Qui le capitaine de sang va nous permettre sur certains bateaux d'être chef de quart, par exemple, ou d'être skipper sur les petits bateaux. Et une semaine plus tard, à la fin de ce diplôme, une fois que je l'avais en poche, une semaine plus tard, j'ai entamé ma formation à l'association du Père Jaouen, qui est un curé jésuite, qui est maintenant mort, de sa belle mort à 95 ans. Moi, je suis arrivée 2 ans après sa mort. En fait, il s'occupait à Paris, de son jeune temps, des prisonniers, en fait. Il était aumônier, il allait dans les prisons. Et puis, il remarquait bien que les jeunes, en fait, ils quittaient la prison, puis ils revenaient rapidement, quoi. Ils revoyaient souvent les mêmes têtes, quand même, quoi. Et donc, il a décidé de créer une maison pour les accueillir après la prison et puis les aider éventuellement à s'en sortir à peu près, à émerger, quoi. Ça s'appelait d'ailleurs le foyer des épinettes. Et ensuite, il a créé l'association l'AJD. Donc, sur le papier, c'est l'association jeudi-dimanche, les amis jeudi-dimanche. Mais en officieux, c'est l'aumônerie de la jeunesse délinquante. Cette association, elle a été créée pour des toxicomanes à la base, quoi. Donc après, au fil des années, ça évolue aussi. C'est plus les mêmes drogues, c'est plus les mêmes mots, c'est plus les mêmes problèmes. Mais bon, il n'empêche qu'il y a quand même toujours des subtilités. Et en fait, du coup, il a créé l'AJD pour les emmener en balade et il a installé une base à Penénez, l'Andeda, donc dans le Finistère Nord. C'est en face des dunes, en fait, avec une vue magnifique sur la Derbrac. Ils ont installé des baraques sur place et ils ont trouvé des bateaux à retaper et puis ils allaient faire des petits tours sur les bateaux. Et puis un jour, on leur a légué le Bel Espoir 1 et puis après, il y a eu le Bel Espoir 2. Un plus gros bateau avec lequel ils ont entrepris de faire des transatlantiques, donc jusqu'aux Antilles, et puis des fois en passant par le Québec et en revenant comme ça jusqu'au Finistère, souvent le trajet classique, c'est Finistère, Canaries, Cap-Vert, Martinique, et ensuite voilà, faire du cabotage dans les petites Antilles, remonter ou non au Québec, traverser l'Atlantique, s'arrêter aux Açores et remonter au Finistère. Je pense qu'il avait une sacrée aura, le père Jaouen, là, et donc son projet motivait quand même beaucoup de monde, et donc ils ont eu beaucoup de dons, en fait, et notamment les dons de bateaux, quoi. On leur propose tout le temps des bateaux, mais des fois des super bateaux, et on leur a donné le Rara Avis, un bateau, un yacht de l'époque, un trois-mâts, une goélette trois-mâts. C'était un Anglais qui l'a possédé, qui l'a donné au père Jaouen. Ça a été le deuxième gros bateau de la flotte de l'AJD.
Il y a beaucoup de jésuites au monde présent. Les bagnes aussi, c'était des jésuites. Et oui, ça a été un peu une spécialité de la maison. On n'avait pas grand-chose à faire, si ce n'est écouter les gens, comme un peu partout. C'est toujours un peu le boulot du curé moyen, vous voyez. On avait les clés, on circulait dans les cellules, et puis on bavardait, on discutait. Ils avaient un contact avec l'extérieur, c'est pour ça qu'on était toujours appréciés quand on rentrait. Moi, j'étais dans le quartier des mineurs. Bon, autrement, ben, c'est la vie d'une prison, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, pas grand-chose. Je vous dirais que si on me proposait une paroisse à Paris, je préférerais Fresnes à toutes les autres, hein. Parce qu'au moins, là, on fait quelque chose. Et les gens qu'on a en face de soi, en général, bah, on les a vrais. Ouais. C'est pas du bidon. Et personnellement, bah, je me suis rendu compte que c'était bien de s'en occuper dedans, mais qu'il fallait surtout s'en occuper dehors, quand ils sortaient. Et c'est pour ça que j'ai construit le foyer des Épinettes. La belle histoire, je l'avais pris pour les gants en vacances du foyer des Épinettes. Parce que quand on avait les gants en vacances, il fallait bien les occuper. Jusqu'au jour où, encore un ministre de la Jeunesse, m'envoie un télégramme et il me dit, ben voilà, je suis emmerdé avec les toxicomanes, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose avec votre bateau? Oh, je dis, moi je veux bien essayer. C'est comme ça qu'on a commencé.
Le but de l'association, c'est d'aider les jeunes dans l'élaboration d'un projet professionnel. Il y avait beaucoup de monde, quoi. Je crois qu'on était 38 stagiaires, en plus des formateurs, il me semble. En tout cas, on était nombreux à table, quoi. Et voilà, en fait, dans les stagiaires, bah, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui viennent, ils ont déjà un projet, ils savent ce qu'ils veulent. Genre moi, j'avais un projet, je savais que je voulais me faire de l'expérience pour aller... Voilà, puis il y a des gens qui viennent, ils sont un peu plus paumés, ils savent pas trop quoi faire. Voilà, il y en a, ils viennent ici, ils sont paumés, ils espèrent trouver un peu leur voie. Il y en a d'autres, il y a vraiment de tout, ça brasse un peu de tout le monde. Bon, après, ça reste des jeunes, entre 18 et 30 ans, on va dire. C'est un passage, quoi. Puis en fait, on apprend énormément de choses là-bas. Et on apprend surtout la débrouillardise, je pense. Vraiment. Moi, je suis arrivée en plein hiver, donc j'ai été logée au baraque, et puis il n'y a pas de chauffage là-bas, donc ils ont changé de poêle, mais à ce moment-là, il y avait un seul poêle dans toute la grande maison, bien humide en Bretagne, en hiver, et le poêle, en fait, il tirait super mal, enfin, il ne chauffait pas la pièce, et nous, on n'avait pas de bois, donc l'idée, bah, c'était d'aller en forêt avec une tronçonneuse et de couper du bois qui était tombé à terre, tu vois. Et donc il n'avait pas eu le temps de sécher. Enfin, c'était vraiment, c'est vraiment la démerde, en fait. Mais en même temps, ça t'apprend à te débrouiller. Et finalement, c'est en lien avec le bateau, parce que le bateau, t'as pas le choix, quoi. Tu fais avec ce qu'il y a. T'as intérêt d'être ingénieux. Et donc voilà, ça t'apprend à être débrouillard, à être un peu plus malin. Et puis même à l'AJD, dans le chantier, un peu partout. C'est vrai que j'avais remarqué ça aussi, c'est que y a pas vraiment de, enfin s'il y a un seul escalier, mais sinon c'est des échelles, comme des échelles sur un bateau. En fait, tout est un peu comme si t'étais sur un bateau. J'ai commencé à la Bervac, en fait. Moi, je suis arrivée début décembre à la Bervac. On rentre à l'AJD avec un statut. On peut pas être juste passé comme ça, là. Il faut qu'on soit soit en service civique, soit on a un statut de stagiaire via Pôle emploi ou via une aide de la région. Et donc, on a aussi un petit salaire de formation, mais voilà, c'est entre 300 et 500 euros en général. Quoi. C'est pas ça pour l'argent. Et donc, il y a les baraques, là, on les appelle les baraques, là où il y a la cantine, on va dire, le bureau, et puis une espèce de maison dans laquelle on vit. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, quoi. Donc c'est plutôt pour les gens qui n'arrivent pas à aller ailleurs. Puis sinon, il y a aussi le chantier du Moulin de l'Enfer, donc là, qui est à Lannilis. Et du coup, il y a le jumper, c'est un petit camion dans lequel on s'entasse pour aller des baraques au Moulin de l'Enfer. C'est un énorme chantier avec, c'est un ancien moulin à marée, avec les deux gros bateaux Raravis et Bel Espoir, quand ils sont là. Et puis toute une flottille de bateaux. Alors ça peut être des petits voiliers, des dériveurs, des annexes, des bateaux à moteur, des barques. Voilà, on fait de la goélie, on fait de tout. Quoi. C'est impressionnant. Ils ont quand même beaucoup de bateaux. Dans ce chantier, il y a énormément de machines qui ont été pour la majeure partie données d'ailleurs. Avec voilà des machines pour le bois, mais pour des vrais chantiers quoi, maritimes. Donc il y a de quoi souder, il y a un tour à métal, un énorme tour à métal. Il y a une voilerie aussi avec un grand plancher à l'étage. C'est un espace énorme, on peut faire rentrer des mâts de 25 mètres à l'intérieur. Enfin c'est immense. C'est sur donc 3 étages. Il y a des formateurs aussi, ça dépend des périodes, mais ça va jusqu'à 9 formateurs. Donc formateurs bois, voilerie, polyvalence, soudure, mécanique, etc., etc. Et moi, donc, quand je suis arrivée là-bas, j'étais d'abord... moi, je pensais que j'allais embarquer tout de suite sur Rara. En fait, c'était un peu le Raravis. C'était un peu ce que j'avais cru comprendre au téléphone. Puis une fois que je suis arrivée, j'ai compris que c'était pas du tout ce qui allait se passer et qu'il fallait que je montre que j'étais motivée. C'est un peu le test. Tu veux embarquer sur un Raravis? Ah ouais? Tu vas piquer de la rouille pendant une semaine déjà pour être sûr que t'es vraiment motivée ou pas. Donc voilà, tu te retrouves avec une espèce de gros engin. Qui pique la rouille, en fait c'est comme une espèce de gros pistolet avec des grosses aiguilles et puis ça pique la rouille, ça pique la paroi en fait très fort, mais en même temps toi ça te fait des espèces de vibrations quand tu finis avec une espèce de tendinite, tu te contorsionnes dans tous les sens pour piquer sur la rouille pour ensuite remettre une peinture qui va éviter que ça rouille de nouveau. Et je faisais la cuisine 2 jours par semaine. Et sinon, j'ai été au chantier et j'ai commencé par la soudure. Donc voilà, j'ai soudé un escalier et puis après, j'ai fait des marches en lamelles collées. Donc j'ai appris la soudure TIG, MIG, parce que c'était vraiment intéressant. Je suis allée en voilerie ensuite, j'ai appris plein de choses. C'est génial, la JD, c'est un réseau, c'est les rois de la récup, les rois de la débrouille. Et donc, c'est d'apprendre à faire confiance. Et à faire des erreurs aussi, dans le sens où moi, une fois, j'avais pris un des petits Figaro, là, donc c'était en plein mois de février, il faisait beau, et on est allé à l'île de Stagadon, justement, on s'est tous réunis pour un pique-nique, machin, ok, génial. Et puis là, le vent s'est levé, et puis, et nous, hein, on est retourné sur le, donc c'est en plein hiver, il fait froid, hein, et on est retourné sur le Figaro en question, et on avait mal remis la dérive. Et donc, on a fini dans les cailloux une première fois. Et on s'est jeté sur les cailloux pour pousser le bateau. On a jeté l'ancre. On a essayé de comprendre un peu, de ressouffler. Puis on a essayé un deuxième départ. Et puis là, en fait, on était trop dans les cailloux. Donc, on s'est repris dans les cailloux. Puis finalement, quelqu'un est venu nous chercher en annexe. Mais pareil, les moteurs, c'est des... Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais du coup ça t'apprend aussi à te débrouiller avec un moteur qui ne marche pas très bien. Alors, on a quand même sorti le Figaro après parce qu'il y a quelques petits trucs. T'apprends aussi par toi-même du coup comme ça quoi. Et à aucun moment, tu vas te faire engueuler parce que tu as abîmé le bateau. L'important, c'est que tu apprennes. Que tu essayes, que tu apprennes par toi-même. Je rejoignais le Raravis à son arrivée en Martinique. L'équipage de la transatlantique débarquait, certains restaient encore quelques semaines, ça dépendait. Après cette transat, il fait pendant à peu près 2 mois du cabotage dans les petites Antilles. Puis tu vas d'une île à l'autre, voilà, c'est impressionnant, l'ambiance change complètement d'une île à l'autre. Les passagers qui embarquent, il y a un peu de tout en fait, c'est un mélange. Et c'est un peu aussi l'idée du père Jaouen, quoi, de mélanger les gens. Prêche le mélange des gens en difficulté ou pas pour le bénéfice de tous. Ça peut être des classes qui viennent à bord ou des enfants en difficulté un peu plus dans des structures spécialisées. Je sais qu'ils ont aussi des fois des gens ouais, qui étaient sortaient de prison ou qui étaient en prison. Et puis ça peut aussi être des retraités ou des gens qui prennent des vacances. Donc du coup, tu te retrouves avec tous les âges à bord. Ça, c'est un côté rassurant aussi, tu vois, une personne âgée qui prend le temps de t'écouter sans juger, en fait. L'idée aussi, c'est de ne pas juger les gens, quoi. Peut-être qu'au départ, tu as un a priori, un certain jugement, mais il va vite tomber, en fait. Tu n'as pas le choix, quoi. On va passer tellement de temps ensemble qu'il va bien falloir qu'on s'apprécie, en fait. Il y a de tout, quoi. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'expérience. C'est vraiment une ouverture d'esprit. Et donc voilà, donc ces gens payent pour venir à bord, mais ils payent en fait ils payent les frais de fonctionnement du bateau, on va dire quoi. Mais la JD se fait pas d'argent là-dessus. C'est juste ça permet de pouvoir faire vivre le bateau, mais pas plus finalement. Rara Avis, ça veut dire l'oiseau rare. En acier, qui fait 38 mètres de long. Et en fait, il est assez ventru, il a la coque assez plate. Et puis voilà, donc il y a la partie pontée avec le roof, la pièce à vivre. Donc il faut imaginer qu'on peut être 40 à manger à l'intérieur, donc c'est quand même pas une petite pièce. Sur le pont, c'est vitré, c'est magnifique, du coup ça permet d'avoir toute la vue. Quand t'es dans des beaux endroits, c'est quand même génial, quoi, c'est très lumineux, tout ça. Derrière et au-dessus, c'est la timonerie avec la grosse barre à roues. Et puis derrière la timonerie, il y a la cuisine en fait avec la cambuse au-dessus. Donc c'est-à-dire que quand on est dans la timonerie, on regarde devant, on voit évidemment les mâts, les voiles, les larges. Et puis quand on regarde derrière, là du coup c'est les légumes, il y en a partout quoi. Et on est obligé de sortir pour voir ce qui se passe derrière. Sur ce même pont, il y a la cuisine. Donc, les cuisiniers, quand ils veulent attraper quelque chose dans la cambuse, ils sont obligés d'escalader l'évier de la vaisselle pour monter, s'aider un peu avec le mât et puis monter dans la cambuse chercher les légumes pour 40 personnes. Du coup, hein. c'est pas deux oignons. Puis la cuisine, elle est toute petite. Je pense qu'en surface, elle doit faire peut-être 6 mètres carrés, grand max. Et donc voilà, il y a un gros fourneau avec 4 feux, un gros four, un évier, un petit plan de travail, un petit frigo. Puis il y a des espaces pour couper les légumes aussi, parce que pour 40, évidemment, le cuisinier ne se tape pas tout seul. Il a des équipes qui viennent l'aider pour la cuisine, pour la vaisselle. Et c'est marrant parce que c'est une pièce qui est toute petite, mais tu peux vite te retrouver à très nombreux là-dedans et puis pouvoir vraiment circuler. Et puis, c'est aussi un endroit où des fois les gens ils s'assoient, ils viennent te parler, ils se mettent au chaud, ils te racontent un peu leur vie. C'est cool aussi comme rapport que tu peux avoir avec les gens quand tu fais la cuisine dans un espace comme ça. Et en fait, la cuisine elle est au-dessus de la salle machine. Il y a l'osmoseur, il y a une petite machine installée par l'Ifremer, il me semble, donc qui mesure la salinité et la température de l'eau. Il y a un petit atelier aussi de réparation, enfin c'est petit. Si on ressort, on traverse le roof, donc on descend cet escalier, puis là on tombe sur le carré passager avec une petite bibliothèque, des jeux, des banquettes et une table. Derrière la cabine du commandant, donc c'est le seul à avoir une cabine pour lui seul. Et là, on descend, on arrive au niveau du pont inférieur. Donc. Et donc là, il y a toutes les cabines. Il y a deux toilettes et une salle de bain pour les passagers, la partie passagers. Et puis sinon, à l'avant du bateau, c'est la partie équipage. Donc les passagers, ils sont à peu près... ça dépend, mais en général, c'est 4 par cabine, alors que l'équipage, ils sont 2 par cabine. Et ils ont aussi une douche et un toilette. Après, on n'a pas l'eau quand on veut sur Aravis. C'est un peu quand le capitaine le veut bien. Et c'est des créneaux d'une heure ou de deux heures ou maximum 3 heures par jour, voilà, bien définis. Quoi. On ne touche pas comme quand on veut parce qu'il y a 5000 litres de réserve d'eau à bord et c'est vrai qu'à 40, ça peut vite dégénérer. Pareil, dans les zones un peu plus fraîches, le chauffe-eau, c'est au bon vouloir, ça peut être au bon vouloir du capitaine. Ça fait un peu bateau pirate aussi, quoi. Il a vraiment un charme hallucinant. Les passagers et l'équipage sont assez proches parce qu'en fait, il y a une espèce d'organisation. Il y a plusieurs groupes en fait qui sont organisés en rotation aussi avec un membre d'équipage et puis des passagers. Donc chaque membre d'équipage a une équipe de passagers avec lui. Et donc il y a une rotation de tâches, donc le ménage, l'aide cuisine midi, le service du midi, la vaisselle du midi et puis pareil, aide cuisine soir, service soir et puis vaisselle du soir. Ça permet aussi à l'équipage de passer du temps avec les passagers, même s'il n'en a pas forcément envie. En tout cas, il n'a pas le choix, hein, parce que quand tu te retrouves avec une vaisselle de 40 personnes, tu es content d'avoir du monde quand même. L'ambiance, quoi. Hein, on est à peu près 4 à 5 par groupe, par équipe. Et puis ensuite, les passagers sont invités dès qu'il y a des manœuvres sur le pont, si ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, ils ne sont pas obligés non plus, hein. Ils peuvent venir sur le pont, hisser les voiles, faire aider aux manœuvres, tout ça. Et puis, ils peuvent aussi, ils sont complètement invités à aller en timonerie et puis à la passerelle. Et puis, s'ils ont envie de barrer, ben, on les laisse barrer. Voilà, on les accompagne, on leur montre comment faire le point sur la carte. Ils sont tout le temps les bienvenus, en fait, à toute heure. Ça peut être à 3 heures du mat, quand ils veulent, quoi. Ouais, du coup, ça crée un vrai esprit de groupe. Après, ils s'organisent aussi ça dépend complètement des traversées, je pense, mais voilà, il y en a qui veulent pas grossir, donc ils s'organisent des séances de sport, des séances de yoga, d'étirement. Il y en a une, elle fait des massages shiatsu, voilà, il y en a une autre qui est kiné, on va se filer des conseils, on va se faire des cours de danse, on va faire des conférences. Je sais pas, une personne qui a bossé dans les sous-marins, il va faire une conférence sur les sous-marins, puis quelqu'un d'autre sur le surf. Je sais pas, et en fait, il y a plein de choses à faire. Après, on peut faire des pièces de théâtre. Nous, on avait fait une chorale. Il y en a qui font de la musique. Il y a quelques instruments de musique aussi à bord. Là, il y a une guitare avec quelques percus. Tu peux ramener ton instrument aussi. Après, pour rythmer les semaines, en cuisine, c'est bien de... Le père Jawel, par exemple, il me semble que c'était soupe tous les soirs. Voilà, la soupe de reste, en fait, un peu tous les restes, voilà, dans une soupe. Tu mixes et puis ça fait la soupe. Bon, après, je pense que ça s'est affiné avec le temps, tout ça, mais il y avait la soupe tous les soirs et tous les dimanches, il y avait le rôti. Et ça marque la semaine aussi. En fait, c'est marrant parce qu'en traversée, on peut vite perdre le fil du temps. On est dans une espèce de cocon et puis on ne sait plus trop ça fait combien de temps qu'on est parti, on est quel jour. On perd vraiment la notion du temps. Et perso, je trouve que de faire le rôti du dimanche, c'est « Ah, mais c'est vrai, on est dimanche !» Et puis les gens traînent plus à table, comme un vrai dimanche.
Ce qui m'intéresse, c'est les gens, en fait. Soit ici ou à la prison de Fresnes, c'est les gens qui m'intéressent, c'est pareil. Mais c'est les gens qui m'ont dit, je ne suis pas la mère, la mère. Bon, ça va la mère, oui, enfin, c'est tout, je ne cours pas après, je m'en passe. Hein. J'étais 10 ans à Fresnes, je n'avais pas de mère, je m'en passais bien. Quand on a à bord 25 clients, j'allais dire 25 personnes inconnues, et que là-dedans il y a une dizaine de jeunes à problème, et puis disons une vingtaine d'adultes plus ou moins à problème souvent d'ailleurs aussi, mais quand même, qui tiennent debout, eh bien... Il y a des grands-mères qui se dénichent, là, qui... le gars il peut parler, il cherche à parler, il va le parler. En mer, il a le temps de se parler. Ça rend un service énorme, ça, c'est énorme.
Bah déjà, ça bouge. C'est très exigu, c'est très étroit. Donc il faut faire plus attention à sa sécurité aussi. Comme ça bouge, il faut fixer les gamelles, les couteaux, il ne faut pas qu'ils dérapent. Et c'est très petit, tu es tout le temps en train de chercher une place pour t'installer. Enfin, il faut toujours être hyper organisé, il ne faut pas se laisser envahir. Quand tu es un peu à la bourre, qu'il y a beaucoup de mer, que c'est un peu dangereux, que ça déborde des gamelles, des liquides brûlants qui sortent des grosses marmites et que tu n'as pas envie de te brûler. Tu as un plat immense dans le four, très lourd, qui peut sortir. Et puis là, en plus, voilà, tu cuisines avec des gens. Ils savent pas faire la différence entre un oignon et une échalote. Ils n'ont jamais pris un coup, ils n'ont jamais coupé un truc de leur vie, presque certains. Donc c'est voilà, tu te dis bah ok, tu me coupes les tomates pour faire une salade de tomates, puis ils vont te couper le trognon de la tomate dedans. Je viens d'un milieu où c'est hyper strict, rigoureux. Si ça se passe pas bien, tu te fais gueuler dessus ou tu gueules sur les autres. Enfin, c'est toujours un rapport un peu de force, quoi. Et là, en fait, tu peux pas te conduire de cette manière-là, en fait, quoi. T'es obligé de, sinon, l'ambiance va tenir très mal très vite. Et du coup, ouais, c'est d'apprendre à être patient, d'expliquer les choses. Ça ne pourra pas être parfait. Donc, il faut l'accepter et qu'on arrive à faire un repas qui soit quand même bon. Il y a certaines exigences qu'il faut mettre de côté et qu'il faut privilégier humainement. Et on a fait la transatlantique jusqu'aux Açores. Ça a pris, il me semble, 3 semaines à peu près. Et là, j'étais avec Poulon, un capitaine que j'ai trouvé génial, là, qui est un des neveux d'Hyper Jawen. Et quand on est arrivé aux Açores, donc on est tous un peu impatients de voir la Terre. On sait qu'elle est proche, là. Et là, quand tu te mets en tête que la Terre est proche, t'as plus du tout la même patience. En fait, Poulon, il adore les Açores et il tenait à ce qu'on aille à Flores. Qui est une toute petite île, beaucoup plus à l'ouest. Bref, on a mouillé là, silence. Et puis en fait, la terre, tu la sens, tu vois, ça fait 3 semaines que tu sens la mer. Et donc, quand t'es sous le vent de la terre, bah, tu sens la terre, tu sens les fleurs, enfin, il se passe un truc, quoi, ça. Et puis, on organise des rotations pour descendre à quai avec les annexes là pour aller boire un coup. Sauf qu'il est 1h du mat et aux Açores à 1h du mat, bon bah, surtout à Flores, ouais, c'est fermé. Là. Et voilà, donc moi j'en ai profité pour simplement marcher, ça fait du bien. Ça fait 3 semaines que t'as pas marché. On s'est baladé, voilà, il y a 8 îles, il me semble, on est allé en voir au moins 5. Elles sont très différentes les unes des autres, c'est très très beau. C'est très vert parce qu'il pleut beaucoup. Donc ça pousse bien et ouais, moi le vert m'avait bon, en plus surtout que voilà, ça fait 3 semaines que t'as vu que du bleu, donc là le vert il est explosif. D'une île à l'autre c'est très différent, je trouve la couleur de la terre, de la roche, c'est assez volcanique aussi, même les formes de chaque île sont marrantes, quoi. Saint-Georges c'est une île tout en longueur, en fait assez étroite, avec un fort dénivelé, une arête en fait très fleurie. Ils ont des espèces d'énormes plantes grasses qui ressemblent à des aloe vera, mais immenses, par un mètre d'envergure au moins, et superbes. Finalement, les gens qui atteignent la Horta, c'est surtout des gens qui ont traversé l'Atlantique, c'est quand même des gens qui touchent déjà un peu à la voile, enfin qui ont une certaine... Ça crée une atmosphère géniale, quoi. Tu vois, t'as des bateaux, on se retrouve, on s'est croisés à un moment, puis là on se retrouve au port, au bar. C'est cool comme ambiance, quoi. On a fait du cabotage pendant 2 semaines aux Açores et ensuite on a pris la route pour l'île de Ouessant. Donc là, il y a plein de bateaux qui nous ont accueillis. Ensuite, traditionnellement, voilà, quand on arrive, c'est le moule frites, c'est en juin. Et bon, bah là, je crois qu'il n'y avait pas eu de moule, du coup, c'était saucisse frites, mais c'était très bien. c'est une grosse tablée, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde à l'arrivée. C'est hyper sympa, quoi. Et en même temps, c'est hyper sympa, mais tu as été pendant 6 semaines dans une espèce de cocon. Ça a été très intense, toute la transat, voilà, tu as été coupé du monde, des communications, évidemment. C'était une espèce de microbiome. Et là, tu arrives à terre et puis il y a plein de monde. Ça fait bizarre aussi, quoi. C'est la fin, quoi, c'est fini. Moi, c'est vrai que j'avais plus rien. J'ai grandi dans une famille. Voilà, ma mère a grandi dans une famille de pêcheurs, donc elle m'a aussi transmis pas mal l'esprit, je pense, de marin. Grand-père qui était marin, mécanicien sur des chalutiers, dans des bateaux de pêche. Il y a un oncle qui était aussi sur les bateaux. Donc dès que j'ai eu besoin de souffler, de réfléchir, de me recentrer, je me suis toujours tournée vers la mer pour ça, en fait. Et donc, quand je suis loin de la mer trop longtemps, ça me pèse. Et là, de naviguer sur la mer, j'adore le voyage. J'adore être en équipe aussi. Et donc, le bateau, en fait, c'est complètement idéal.
Carole rêvait d'être marin-chef sur les bateaux et elle s'en est donné les moyens. Le côté débrouille en cuisine, le défi de faire avec ce qu'on a sous la main, l'idée que l'on ne jette rien et qu'on consomme tous sont ses défis quotidiens en mer. Retrouvez le portrait de Carole sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, conteuse d'histoires sous-marines.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.